Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Une attaque sans précédent, massive. Depuis son sol, l'Iran a envoyé quelques 300 missiles et des drones kamikazes sur Israël dans la nuit de samedi à dimanche. Le ciel s'est illuminé au rythme des explosions et des interceptions des missiles iraniens par le système israélien de défense aérienne qui s'est révélé efficace. L'attaque iranienne a fait peu de dégâts.
La menace iranienne s'est heurtée à la supériorité aérienne et technologique de l'armée israélienne, combinée à une forte coalition de combat qui, ensemble, a intercepté la grande majorité des menaces.
Les États-Unis, la Grande-Bretagne, mais aussi la Jordanie et la France ont contribué à contrer l'attaque de Téhéran. Emmanuel Macron a confirmé ce matin l'intervention de l'armée française.
Nous avons une base aérienne en Jordanie et donc l'espace aérien jordanien a été violé par ces tirs. Nous avons fait décoller nos avions et nous avons intercepté ce que nous devions intercepter.
À Téhéran, de nouvelles bannières ornent les rues. La République islamique d'Iran se félicite d'avoir frappé Israël en représailles après l'attaque de son consulat à Damas.
Nous attendions que cette vengeance soit exécutée et que les Israéliens soient punis pour leur brutalité.
L'État hébreu va-t-il riposter à son tour? Le Premier ministre israélien a réuni cet après-midi son cabinet de guerre, tandis que les États-Unis continuent d'appeler à la désescalade.
Ce sera aux Israéliens de décider quelle sera la prochaine étape. Je rappelle seulement que le président Biden travaille dur depuis le début du conflit pour éviter une guerre régionale.
Alors le gouvernement israélien choisira-t-il la voie de l'apaisement, soutenu notamment par les USA et la France face à l'offensive militaire iranienne? Entendra-t-il leurs appels à la retenue à Gaza? L'attaque de Téhéran contre Israël peut-elle changer la donne au Proche-Orient?
Eh bien, nous allons essayer de répondre à ces questions tous ensemble. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints. À mes côtés, Michel Taubman, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste pour la chaîne israélienne I24 News. Vous collaborez aussi à la Revue Politique Internationale et vous êtes l'auteur, entre autres, de « Histoire secrète de la révolution iranienne » paru chez De Noël. Et selon vous, Michel Taubman, on a l'impression qu'il y a deux vainqueurs. D'un côté, les Iraniens qui réussissent à projeter leurs missiles jusqu'en Israël et de l'autre côté, les Israéliens qui réussissent à démontrer l'efficacité de leur défense. À vos côtés, bonsoir Ziad Majed.
Bonsoir.
Bienvenue à vous. Vous êtes professeur à l'Université américaine de Paris, spécialiste du Moyen-Orient. Et vous avez publié aux éditions Actes Sud, Dans la tête de Bachar al-Assad. Selon vous, pendant l'attaque de samedi soir, les pays alliés ont voulu montrer qu'ils se mobilisaient pour défendre la sécurité d'Israël. Mais pour autant, ils ne cautionnent plus l'offensive israélienne toujours en cours à Gaza. Et puis à vos côtés, Héloïse Fayet. Bonsoir.
Bienvenue bonsoir.
À vous. Vous êtes chercheuse à l'Institut français des relations internationales. Vous dirigez le programme de recherche, dissuasion et prolifération au centre de sécurité de cet institut, l'IFRI. Selon vous, ce qui est surprenant, ce n'est pas tant la frappe iranienne elle-même, dites-vous, mais plutôt les précautions prises par Téhéran pour diminuer les dommages. L'Iran avait prévenu en amont, car visiblement, le régime des Mollahs ne voulait pas aller trop loin. Tout de suite, pour ouvrir ce débat, Valérie Brochard, vous avez un chiffre qui est même le chiffre du jour.
Exactement, seul 1% des 331 drones et missiles iraniens tirés dans la nuit de samedi à dimanche a atteint le sol israélien sans être intercepté. C'est la première fois que l'Iran attaque directement l'État hébreu, deux semaines après une frappe israélienne visant le consulat iranien à Damas en Syrie. Ziad Majed, c'en est fini de l'utilisation des proxys, exit le Hezbollah libanais ou les outils yéménites. Maintenant, Israël et Iran s'attaquent directement?
Alors, c'est la première confrontation directe entre les deux acteurs, du moins du côté iranien, parce qu'Israël frappe depuis très longtemps les Iraniens en Syrie. L'attentat ou l'attaque contre le consulat est une violation des conventions de Vienne, sur tout ce qui est diplomatique et consulaire. Donc, pour les Iraniens, il y avait une nécessité de montrer qu'ils ne vont pas seulement utiliser leurs alliés dans la région, mais que c'est une question d'État. Leur réponse envoie un message comme quoi Israël avait franchi une ligne rouge, mais néanmoins, on peut dire aussi que les Iraniens voulaient clairement éviter des dégâts en Israël pour ne pas aller à un scénario de guerre totale qu'ils évitent depuis le 7 octobre. De même que Hezbollah qui évite également l'affrontement tout en gardant une certaine intensité des combats, disons moyenne, sur la frontière sud du Liban.
Héloïse Fayet, quel sens donner à cette première attaque directe de l'Iran contre Israël et aussi à cette forme de retenue? Est-ce que les Mollahs s'adressent d'abord à leur opinion ou aux pays arabes avant justement de vraiment vouloir détruire Israël ?
Alors cette retenue, en réalité, elle avait déjà été exercée par l'Iran lorsqu'il y avait eu la mort de Qassem Soleimani, donc le général commandant la force Quds, donc cette force spéciale des Gardiens de la Révolution. Et donc, pour se venger de cette mort perpétrée par les Américains, l'Iran avait frappé des bases de la coalition occidentale en Irak. Et là aussi, ils avaient pris leurs précautions et donc ils avaient alerté mais quelques heures en avance les forces américaines présentes afin qu'elles puissent en fait mettre à l'abri la plupart de leurs soldats.
Cependant, et pourquoi donc ? C'est plutôt un message donc, pour leurs opinions, pour les opinions des
Iraniens ? Non, alors c'est déjà pour montrer que les Iraniens ont la capacité, comme ça a été dit, de projeter leurs missiles balistiques jusqu'à un pays qui est certes bien défendu, mais qu'ils ont en fait les stocks nécessaires. Et ensuite, oui, ils ne pouvaient pas se permettre de ne pas répliquer, que ce soit à destination de leur opinion publique interne. Et d'ailleurs, on l'a vu, la presse iranienne enjolive beaucoup ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, explique qu'il y a eu des dégâts, alors qu'en réalité, il n'y en a quasiment pas eu. Et puis ensuite, c'est évidemment restaurer une crédibilité auprès de son réseau d'influence, qui, à mon avis, continuera d'être extrêmement important, donc Hezbollah, milices chiites et Houthis.
Alors, on le disait à l'instant, c'est donc la première fois que Téhéran attaque directement le sol israélien. En revanche, l'Iran s'en est déjà pris par le passé aux intérêts de l'État hébreu à travers le monde et en particulier à l'ambassade d'Israël. C'était à Buenos Aires, en Argentine, il y a 32 ans et c'est notre archive du jour.
Une énorme explosion qui a secoué tout Buenos Aires. Ces images ont été filmées par un habitant de la ville. Il était 15h en Argentine, 19h à Paris. L'ambassade israélienne est complètement détruite. Les immeubles avoisinants, une crèche, une école et une maison de repos sont touchés. Des centaines de civils grièvement blessés, des enfants pour la plupart. La représentation diplomatique d'Israël était une véritable forteresse. Il n'en reste ce matin que les murs latéraux et l'arrière de l'immeuble. C'est vraisemblablement une voiture piégée déclenchée à distance qui a ravagé ce bâtiment de 3 étages.
Et Michel Taubman, cette affaire, ce carnage provoqué par l'État iranien, justement 29 morts, a précisément, l'enquête a trouvé son épilogue la semaine dernière.
Oui, alors c'est une coïncidence, mais c'est vrai que ça permet de cataloguer l'Iran comme responsable et comme État terroriste. C'est les décisions sur les décisions judiciaires argentines. Et en même temps, les gens qui suivent cette question ne sont pas surpris, puisque on sait que à cette période-là, à cette époque-là, l'Iran a multiplié les attentats à l'extérieur, notamment au Liban, pays que vous connaissez bien. Pendant la guerre du Liban, en 1983, 58 soldats français au quartier général du Drakkar, 241 soldats américains. Donc l'Iran a un bras armé à l'extérieur qui est aujourd'hui, qui s'appelle Al-Quds, c'est le bras armé des gardiens de la Révolution, et qui est coutumier d'attentats. Et c'est vrai que ces dernières années, l'Iran s'est replié sur le Moyen-Orient. Il n'y a plus d'attentats à l'extérieur, il n'y a plus d'attentats en Europe, comme il y en avait eu dans les années 80-90.
Louise Fayet, j'ai une question certainement très naïve, mais j'aimerais comprendre pourquoi Israël et l'Iran s'affrontent-ils alors qu'ils sont séparés, on peut le voir même sur une carte, par 1600 kilomètres. Qu'est-ce qui explique cet affrontement entre ces deux pays ?
Bon, la distance n'empêche rien. On peut dire que les États-Unis et la Russie sont très éloignés. Bon, il y a certes le détroit de Bering, mais se sont affrontés pendant des dizaines d'années, pendant la guerre froide. Alors, ils s'affrontent tout simplement parce que l'Iran, le régime islamique mis en place depuis 1979, a dans ses objectifs la destruction de l'État d'Israël, qui d'ailleurs ne qualifie même pas d'Israël, mais d'entité sioniste. Et donc, effectivement, c'est l'un des objectifs de la République islamique d'Iran. Et évidemment, Israël n'accepte pas d'être menacé dans son existence. Et donc, effectivement, c'est plutôt une guerre par procuration qui se jouait jusqu'à présent. Et maintenant, elle est un peu plus directe.
Alors qu'il faut rappeler que ce n'était pas le cas sous le régime précédent, sous le Shah d'Iran. Avant la révolution islamique, il y avait de bonnes relations entre l'Iran et Israël.
En fait, jusqu'en 79, donc jusqu'à la révolution, le Shah d'Iran était un allié régional d'Israël. Il y avait d'ailleurs une alliance Israël, l'Iran et l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et la coopération militaire et sécuritaire entre le SAVAK, qui était le système iranien de répression et de services de renseignement, et le Mossad israélien était très connue. En 79, un grand changement a eu lieu, exactement la révolution, mais en même temps le repositionnement géostratégique de l'Iran, qui a cherché aussi aussi à trouver des alliés arabes en adoptant la cause la plus chère aux Arabes, qui est la cause palestinienne, et en instrumentalisant l'injustice faite aux Palestiniens par l'occupation et tous les crimes israéliens à travers l'histoire contemporaine.
Et en fixant donc l'objectif de la destruction de l'État d'Israël. C'est l'objectif du régime.
Ce qui s'est passé la nuit dernière est quand même symbolique de l'aboutissement d'une situation qui a évolué depuis des décennies et des décennies. Dans les trois premières décennies après la naissance d'Israël, les deux pays qui reconnaissaient Israël et qui avaient des relations au moins de facto avec Israël, c'était l'Iran et la Turquie, les deux puissances non arabes de la région. Et il y avait le conflit israélo-arabe qui semblait interminable. L'année de la révolution islamique en Iran, c'est aussi l'année des accords de Camp David, quelques mois après, et de la reconnaissance de la paix avec l'Égypte. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé avant-hier, et je pense quand même très très important, symboliquement, politiquement, diplomatiquement, c'est que Israël a rétabli, en tout cas pour l'instant, c'est comme ça que les gens le ressentent en Israël, sa capacité de dissuasion et d'une certaine manière à effacer, en tout cas pour l'instant, le traumatisme en partie du 7 octobre, mais que Israël ne l'a pas fait tout seul. Israël l'a fait avec les pays arabes. Et donc le clivage central aujourd'hui, il n'est pas entre Israël et les Arabes, mais il est entre la coalition israélo-arabe et l'Iran.
On va revenir justement à ce qui s'est passé précisément samedi soir, Anna, puisque, on le rappelait tout à l'heure, 1% seulement des missiles a atteint le sol israélien, 99% ont donc été détruits en vol. C'est la preuve que le fameux dôme de fer, fonctionne.
Bah oui, le dôme de fer, vous le savez, ce bouclier antimissile fait la fierté d'Israël depuis 2011 et il lui permet notamment de se protéger des attaques de roquettes du Hamas et du Hezbollah. Alors, il ne s'agit évidemment pas d'une cloche qui recouvre l'État d'Israël, mais c'est plutôt une dizaine de batteries antimissiles à quand même 100 millions de dollars l'unité, qui sont répartis un petit peu partout sur le territoire et elles sont capables de neutraliser en vol jusqu'à 200 missiles par minute. Alors concrètement, quand une roquette est tirée en direction d'Israël, la technologie du système va analyser la courbe, la taille, la vitesse de l'objet, si la trajectoire de la roquette menace une zone d'habitation ou une zone sensible, eh bien un missile sol-air est directement projeté dans sa direction et va ensuite exploser une fois arrivé à proximité de la cible. Ce sont d'ailleurs les images d'interception que l'on voit régulièrement comme ici et qui rappellent un petit peu un feu d'artifice. Alors ce dôme de fer, il est aussi complété par deux autres systèmes antimissiles, le système Arrow 3 contre les missiles de longue portée et celui qu'on appelle Fronde de David contre les missiles de moyenne portée. Alors tous ces systèmes, eh bien, ils ont fait leur preuve lors des précédents conflits à tel point que certaines armées européennes ont choisi de s'en équiper. L'État hébreu a vendu à l'Allemagne le système, le fameux système Arrow 3. À la Finlande, il a vendu celui de la Fronde de David et la Roumanie serait même intéressée par le dôme de fer dans son intégralité. Ziad Majed, ce dôme de fer, est-ce que c'est pas la meilleure assurance vie d'Israël ?
C'est une assurance vie certainement, mais il faut savoir aussi que la distance parcourue par les drones iraniens, et c'était voulu par l'Iran, permettait aussi à ce système d'intercepter et de détruire les drones et les missiles. Mais s'il y a des tirs de proximité du côté du Liban, du côté du Golan syrien occupé par Israël, du côté de la frontière entre la Jordanie et l'Irak où il y a des milices chiites irakiennes, ce système peut être saturé et les distances parcourues par les missiles sont très limité et donc il peut y avoir des grands risques. Je me permets juste de dire que considérer qu'il y a une alliance arabo-israélienne contre l'Iran, c'est quand même un raccourci. Les régimes arabes ou certains régimes arabes, il est vrai, ont normalisé avec Israël et ils sont détestés dans la rue arabe à cause de cela, tant qu'il n'y a pas une solution en Palestine et tant qu'il y a un génocide en cours. Donc,
mais on a vu concrètement que la Jordanie...
La Jordanie a contribué pour une simple raison, que la Jordanie ne veut pas que son ciel devienne un espace de confrontation entre Israël et entre l'Iran. Et les Jordaniens ont dit en même temps, si Israël mène des attaques à partir de notre espace aérien, on fera la même chose. Donc, ils essayent un peu de se démarquer, mais on est loin d'une alliance entre Arabes et Israéliens contre les Iraniens, au moins du côté de l'opinion publique arabe très remontée contre les crimes israéliens.
Michel Thoman, on a vu quand même qu'il y a plusieurs pays, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, qui ont aidé Israël à ce moment-là, alors même qu'ils sont plutôt pas tout à fait d'accord sur ce qui se passe en ce moment à Gaza.
On peut ne pas être d'accord, hein, chérie. D'abord, je ne suis pas d'accord avec l'usage du mot au génocide, c'est-à-dire qu'il y a, en Israël, l'armée israélienne a commis sans doute des crimes de guerre. Hein. Le Hamas a commis des crimes de guerre et peut-être des crimes contre l'humanité le 7 octobre. Tout ça doit être jugé pénalement. Et ça, ce sont des termes juridiques. Il y a beaucoup de morts, il y a trop de morts civiles. Hein. Mais le terme de génocide est un terme très particulier.
Il y a un procès en cours.
Ces pays alliés, voilà.
Mais on ne peut pas affirmer... Il y a génocide.
C'est la vie des nations unies.
C'est pas tranché en l'occurrence.
Ouais, c'est pas tranché. C'est la rapporteure des Nations Unies qui est tranchée.
C'est pas tranché. Elle n'a pas un avis des Nations Unies.
Je dirais même plus, je dirais dans votre sens, il y a même des propos génocidaires qui sont tenus par certains
ministres israéliens. La question d'Anna. Revenons sur les alliés. Voilà ces pays, la France, le Royaume-Uni, la Jordanie, on en a parlé. Pourquoi tout d'un coup se sont-ils mis à aider Israël ?
Ah bah écoutez, il n'y a que les gens de la droite israélienne qui en sont surpris. Bah, les gens de la droite israélienne qui n'arrêtent pas de dire que le monde entier est contre nous, que les Américains vont nous lâcher, etc. Non, les Américains et les Européens soutiennent inconditionnellement le droit à l'existence d'Israël. Et quand Israël est en danger, même si là, on peut dire qu'Israël n'était pas en danger, mais s'il n'y avait pas eu cette réaction, il aurait pu y avoir des milliers de morts. Donc le droit inconditionnel à l'existence d'Israël, ça c'est le dogme porté surtout par le président Biden. Mais la critique du gouvernement Netanyahou, c'est aussi, et c'est la subtilité de la politique de Biden, soutien inconditionnel à Israël et critique assez forte et assez virulente et de moins en moins privée et de plus en plus publique de la politique et de la manière dont la guerre est menée à Gaza. Il essaye encore de reprendre la main sur Israël, c'est-à-dire en étant le plus fidèle, le plus fervent soutien d'Israël, il se donne aussi les moyens ensuite d'exiger et de demander à Netanyahu un certain nombre de garanties sur la conduite de la guerre à Gaza. Est-ce qu'il y arrivera ? Ça, c'est une autre affaire.
Alors justement,
mais c'est sa politique.
Héloïse Faye, est-ce que ça peut marcher, ça ?
Non, moi, je voudrais te faire deux points, en fait, sur ce qu'on disait sur la défense antiaérienne. Déjà, 99%, c'est quand même un chiffre qui a été donné par l'armée israélienne. Et les services de renseignement américains ont révélé que la moitié des missiles balistiques qui ont été tirés d'Iran, donc les 100 missiles balistiques, en fait, la moitié n'ont même pas atteint le territoire israélien parce qu'ils ont dysfonctionné. Et il faut aussi noter.
Oui, globalement, le dôme de fer, il a quand même une efficacité à peu près de 90%.
Mais il faut quand même noter que les 99% d'interceptions, c'est aussi parce qu'il y avait des chasseurs américains, donc des avions dans le ciel qui ne font pas partie de ce dôme de fer et des bâtiments de surface, des bateaux qui ont contribué justement à la destruction de drones. Donc en fait, je pense que c'est quand même important de relativiser cette importance.
Alors, ce n'est pas tout à fait la question de Valérie. Allez-y Valérie, retentez votre chance.
Pour revenir justement à la position de la France, justement, qui a participé aussi
elle n'a pas participé en soutien d'Israël, elle a intercepté des drones qui circulaient dans l'espace aérien jordanien. Il y a des accords entre la France et la Jordanie. Il y a une base militaire française en Jordanie. Et donc, si cette base militaire était menacée, il est normal que les rafales situées sur cette base décollent. Et d'ailleurs, je pense que le président Macron a bien insisté sur le fait que c'était à la demande de la Jordanie afin d'essayer de maintenir cet équilibre entre, d'un côté, la critique effectivement du gouvernement israélien pour ce qui se fait à Gaza et de l'autre, évidemment, la protection de son droit.
Mais est-ce que là, l'intervention américaine en faveur d'Israël peut jouer justement dans la relation entre Israël et entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou à propos de Gaza ? Est-ce que ça peut avoir un effet ? C'était ça la question.
Oui, alors ça va dépendre en fait effectivement de la capacité de levier que Joe Biden a sur Benjamin Netanyahou, mais Netanyahou peut considérer en réalité que le soutien américain dans ce qui est quelque chose, l'existence même d'Israël est quelque chose de complètement dû, alors qu'il y a quand même une différence. Enfin, malheureusement, ce qui se passe à Gaza ne représente pas la mise en danger de la survie d'Israël, alors que potentiellement une attaque balistique de grande ampleur de l'Iran, oui. Donc ce n'est pas des situations comparables.
Alors Téhéran, on va avancer un tout petit peu exactement sur le nucléaire, puisque Téhéran inquiète évidemment toute la communauté internationale quant à ses capacités techniques dans le champ nucléaire. Et en premier lieu, évidemment, l'ambassadeur israélien à l'ONU, qu'on écoute tout de suite.
Prenez un moment pour réfléchir à ce qui se passerait si l'ayatollah Khamenei, le guide suprême iranien, avait pu lancer une bombe nucléaire la nuit dernière. Est-ce le monde dans lequel nous voulons vivre ? Aux signataires sur l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, je dis donc, imposez toutes les sanctions possibles à l'Iran avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons besoin d'un monde dirigé par des Churchill, pas des Chamberlain.
Ziad Majed, est-ce qu'il y a un risque, avec cette tension accrue, d'accélérer justement l'accessibilité de l'Iran à la bombe atomique ?
L'Iran veut absolument progresser dans son programme. Et d'ailleurs, il y avait des négociations avec les Américains à Muscat, à Oman, ce qu'on appelle le tracto diplomatie. Et on sentait qu'il va y avoir peut-être un accord ou un début d'accord, surtout que Biden est en année électorale, donc il a intérêt à ce qu'il progresse sur ce sujet, sur ce dossier. Cette frappe peut ralentir les choses. Mais de toute façon, au Moyen-Orient, aujourd'hui, la question nucléaire est au cœur des discussions, des pourparlers. D'ailleurs, Israël est un État nucléaire, donc qui se considère légitime en sa possession de la bombe, mais pas les autres. Donc peut-être il faut repenser, reconfigurer le Moyen-Orient sans armes nucléaires et sans accord nucléaire qui peut nuire aux intérêts et à la survie des autres.
Le repenser, d'accord, Michel Taubman, mais est-ce qu'on sait concrètement où en sont justement les pays tels que l'Iran et voisins ?
Écoutez, a priori, il y avait deux moyens d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, c'était le JCPOA, l'accord sur le nucléaire, qui a été rompu d'abord par Donald Trump en 2018.
Oui.
Une fois que Donald Trump a rompu cet accord sous la pression des Israéliens qui le trouvaient non sans raison insuffisant, cet accord, les Iraniens ensuite se sont engouffrés dans la brèche.
Dans la brèche
et
évidemment.
On est dans une situation, il y a eu la guerre en Ukraine, rupture au sein du Conseil de sécurité entre, disons, quand il y a des adultes, et quand les adultes qui doivent faire régner l'ordre dans la classe se disputent entre eux, eh bien les enfants ou les adolescents font n'importe quoi. Et donc l'Iran, est la course à la bombe s'est accélérée. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ne peut plus contrôler. Et donc, d'après tous les experts, l'Iran est au seuil du nucléaire.
Et Louise Fayet,
voilà. Maintenant, alors, par rapport aux pays arabes, bon, je veux bien que vous disiez qu'il n'y a pas que les opinions publiques arabes, inversement d'ailleurs à l'opinion publique iranienne, sont très anti-israéliennes et solidaires des Palestiniens. Hein, mais les États arabes ont ça en commun avec Israël et avec les États-Unis, c'est le refus de voir l'Iran accéder à l'arme atomique.
Ouais.
Hein, et d'ailleurs, et personne n'y a intérêt parce que si les Iraniens l'ont, les Saoudiens diront pourquoi pas nous, les Égyptiens.
C'est ça.
Et donc la question, c'est la prolifération. C'est pas tellement que l'un l'est ou l'autre l'est pas, c'est la prolifération.
Et Loïs Fayet, justement, je vous ai vu hocher la tête. Est-ce qu'effectivement les Iraniens sont au seuil d'avoir l'arme atomique?
Alors,
ou est-ce que c'est là aussi une forme de dissuasion dans la dissuasion, c'est-à-dire qu'ils en seraient encore finalement
relativement
éloignés? Effectivement,
l'Iran est ce qu'on appelle un état du seuil, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir l'arme nucléaire. L'AIEA arrive toujours à faire des inspections et à envoyer des rapports trimestriels qui nous permettent de savoir où en est le programme nucléaire militaire iranien. Aujourd'hui, on estime qu'en moins d'une semaine, il pourrait réunir la matière nécessaire à la fabrication d'une arme nucléaire, mais ça ne veut pas dire qu'en une semaine, ils auraient une arme nucléaire fonctionnelle. Au contraire, il leur faudrait encore plusieurs mois, voire plusieurs années, pour militariser cette matière fissile, cet uranium enrichi, et la mettre en fait sur un missile balistique qui pourrait ensuite envoyer sur leur pays de leur choix. Sauf qu'une fois que ce processus, une fois que ce seuil serait potentiellement franchi, ce serait beaucoup plus difficile à surveiller. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire tous les efforts en amont. Et surtout, les Iraniens ont signalé à plusieurs reprises qu'une frappe israélienne sur le territoire iranien et encore plus sur des sites nucléaires iraniens, premièrement, ne serait potentiellement pas efficace pour freiner le programme et au contraire, pousserait potentiellement le régime à franchir ce seuil.
Merci Héloïse Fayet, merci à tous les trois. Ce sera le mot de la fin, en tout cas pour ce soir. Merci à tous les trois d'être venus débattre sur ce plateau. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.